C'est en Russie, Gazprom qui reprend le contrôle d'un certain nombre de ses concurrents et surtout qui parvient, Gazprom et d'autres, bien entendu derrière le Kremlin, à éjecter Shell, BP, Total, des grands projets pétroliers et gaziers signés à l'époque de Yeltsin. C'est en Bolivie, Evo Morales, c'est au Venezuela, Hugo Chavez, qui menace et voire qui nationalise leurs ressources pétrolières. Ce sont aussi des frictions chez des producteurs de moindre taille, je pense en Afrique par exemple au Tchad. Le thème c'est véritablement nous devons reprendre le contrôle de nos ressources naturelles, ce qui bien entendu explique aussi en partie la flambée des prix, car on sait très bien que ces pays n'ont bien souvent pas les moyens de développer leur exploration pétrolière ou gazière.
Dans quelle mesure, selon vous, la Russie utilise la dépendance énergétique de l'Europe à son égard ?
L'année 2006 avait commencé par la première guerre du gaz entre la Russie et l'Ukraine. Pendant toute l'année, Gazprom directement, la Russie indirectement, ont fait sentir leur puissance à l'ensemble de leurs voisins. Que ce soit les voisins immédiats de la Russie, et là on est au cœur de la géopolitique, Ukraine, Bélarus, Géorgie, etc., que ce soit l'Europe occidentale qui, là, a à faire face à l'offensive de Gazprom, qui veut non seulement vendre du gaz, mais qui veut aussi contrôler les gazoducs et éventuellement distribuer ce gaz.
Est-ce que vous pensez que Chavez a fait la même chose avec les États-Unis ?
Chavez n'a pas les mêmes marges de manœuvre. Chavez continue à vendre 40% de son pétrole aux États-Unis. Et les États-Unis ont besoin du pétrole de Chavez. Chavez, de toute façon, il ne représente pas une menace extrême, même si on peut constater qu'en 2006, il a consacré à peu près $1 milliard à acheter des armes, des Sukhoi russes, d'une usine de Kalachnikov. Ce n'est pas la meilleure utilisation qu'on puisse faire de la rente des matières premières.
Est-ce que il y a une réelle montée en puissance de l'énergie iranienne ?
Là, nous rentrons dans le pétrole au sein de l'ensemble des conflits dans la zone arabo-persique. On n'a pas parlé de l'Irak, mais l'Irak reste quand même un producteur de pétrole malgré tout. L'Iran s'est lancé sur ce programme nucléaire qui, objectivement, ne peut pas se justifier. L'Iran a suffisamment de pétrole pour, au-delà de la fin de ce siècle, ce dont l'Iran a besoin, c'est de développement économique. Et je ne suis pas sûr que tout l'argent que le régime investit dans le développement du nucléaire, soi-disant civil, soit le mieux investi. Donc il y a là quand même une montée en puissance de conflits que facilite le pétrole. Et bien entendu, lorsque ces conflits arrivent à maturité, c'est eux qui pèsent sur les prix du pétrole. Rappelons seulement que chaque jour, 18 ou 19 millions de barils sur les 85 que consomme la planète transitent par le détroit d'Ormuz. Et le détroit d'Ormuz, c'est très étroit et ça peut être assez facilement bloqué par le premier attentat que l'on peut imaginer.
On peut dire que la situation est explosive, finalement.
Oui, on peut dire qu'on danse gentiment sur un baril de pétrole. C'est pour ça, d'ailleurs, que les prévisions 2007, le baril de pétrole, il peut se balader n'importe où entre 50 et $100.